Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, saint Thomas d'Aquin nous met sous les yeux maintenant la vertu de vérité. Cette vertu est comme la conclusion de toute cette vérité dans laquelle Dieu nous fait vivre. Il est très important de parler de vérité aujourd'hui parce que le monde ne comprend plus ce que c'est. Il y a un péché très grave contre le Saint-Esprit et qui s'appelle le refus de la vérité. On considère trop souvent, même chez les catholiques, que la vérité est un préalable à la vie. Si on veut vivre correctement, il faut respecter un certain nombre de vérités, mais la vie, c'est autre chose. Eh bien non. La vie est dans la vérité. Je vais vous l'expliquer. La vérité, c'est en réalité la sagesse de Dieu. Dieu est la sagesse même, et donc on peut dire que Dieu est la vérité même. Seulement, si je vous dis que Dieu est la vérité, cela va vous paraître très philosophique. Si je vous dis que Dieu est la sagesse, cela va vous paraître beaucoup plus normal. Et comme je veux vous montrer que la philosophie est importante pour diriger notre vie, alors parlons de la sagesse et ainsi vous comprendrez ce qu'est la vérité. Dieu est la sagesse, parce qu'il a la perfection de l'être, tout simplement. Et lorsque Dieu crée, il crée dans sa sagesse. C'est-à-dire qu'il fait des choses conformes à sa sagesse. Et il n'est pas possible que Dieu fasse des choses contraires à sa sagesse. Qu'est-ce que créer selon la sagesse de Dieu? Je pourrais vous prendre des exemples matériels, sensibles, mais on risquerait d'avoir du mal à s'élever. Prenez cette réalité merveilleuse que Dieu a faite, la famille. Dieu a fait la famille, il a fait le père, la mère, complémentaires l'un de l'autre, les enfants qui, d'une façon merveilleuse, dépendent de leurs parents et pourtant sont des êtres complets, avec une conscience, avec une prudence. Je ne parle pas des tout-petits-enfants, bien entendu. Eh bien, lorsque la famille est conforme au plan de Dieu, on a une vraie famille. Et lorsque la famille n'est pas conforme au plan de Dieu, on a une fausse famille. Évidemment, si on définit la famille par l'amour, l'amour au sens moderne, parce qu'au vrai sens, l'amour ramène toujours à la vérité. Si on définit la famille par rapport à l'amour, alors il suffit que deux personnes s'aiment pour constituer un couple, comme on dit, un foyer. Et il n'y a aucune raison de refuser le divorce à des gens qui ne s'aiment plus, et il n'y a aucune raison de refuser le mariage à des gens qui s'aiment. Mais si on définit la famille par rapport à la sagesse de Dieu, alors là, c'est tout autre chose. Parce que un faux couple, une fausse famille, pourquoi est-ce très grave? Parce que il nie la fidélité. Il nie la sagesse de Dieu. Il nie le plan de Dieu. Il nie le fait que les parents sont dans la dépendance de Dieu pour transmettre une vérité immuable qui ne change pas. On s'en rend bien compte. Si les parents divorcent et prétendent se remarier ailleurs, ils ouvrent des vannes qui vont faire déferler un torrent. Les enfants vont dire, puisque tu as voulu faire ce que tu as voulu, eh bien pourquoi moi je n'aurais pas le droit de faire ce que j'ai voulu, ce que je veux? Et à ce moment-là, la fausse famille qui a une ressemblance de famille, parce que quand même il y a un père et une mère, les enfants ne vont pas s'encombrer de cela. On a coupé, on a rompu le lien avec la sagesse de Dieu, à ce moment-là, les enfants deviennent fous. Et quand cela se multiplie, le monde est fou. Quand vous avez des juges qui légitiment ces fausses familles, des législateurs qui légitiment ces fausses familles, à ce moment-là, le monde entier est fou. Vous comprenez pourquoi il est important de parler de la vérité? La vérité de Dieu n'est pas seulement dans la création, à savoir que Dieu a fait des vraies familles. Elle est également dans le gouvernement divin, à savoir que la sagesse de Dieu n'a pas agi le premier jour et puis après cela que le monde tourne à sa guise. Non, Dieu continue à faire vivre le monde selon sa sagesse. Et on voit par là que la vie n'est pas à opposer à la vérité. La vie, c'est la conformité à la vérité dans l'action, comme l'être, c'est la conformité à la sagesse de Dieu, c'est-à-dire à la vérité dans ce qui est. C'est-à-dire que non seulement Dieu a fait la famille, mais il gouverne les familles. Non seulement Dieu a fait l'homme est un animal raisonnable, etc. Ça, c'est la définition dans la sagesse de Dieu. C'est une très grande sagesse de Dieu que d'avoir fait les hommes. Mais en plus, Dieu gouverne les hommes et il les gouverne par rapport à sa sagesse. Et sa sagesse, qu'est-ce? Sinon, la vie éternelle. Dieu nous dirige vers la vie éternelle. Saint Thomas prend l'exemple. Vous avez l'archer et la flèche. L'archer dirige la flèche vers le but et il sait qu'il la dirige vers le but. La flèche aussi se dirige vers le but, mais elle ne le sait pas. Et Dieu, dans son gouvernement divin, fait des hommes qui sont des archers et non pas des flèches. Et cela aussi, c'est très important, parce que cela veut dire que l'homme doit entrer de lui-même, volontairement, dans cette sagesse de Dieu. Et pour entrer dedans, il doit la saisir. Et pour la saisir, il a une faculté qu'on appelle l'intelligence, parce que intelligence veut dire lire dedans, c'est-à-dire que par l'intelligence, nous lisons dans la pensée de Dieu. Intus legere, lire dedans. Nous lisons dans la pensée de Dieu. Et c'est pour ça que c'est un crime que de détruire l'intelligence. Parce qu'on empêche l'homme de lire dans la pensée de Dieu. Et comme le monde moderne n'arrive pas à détruire l'intelligence, parce que dire une fausseté, c'est encore affirmer quelque chose en utilisant le verbe être et faire référence à des principes. Alors, le monde moderne va endormir l'intelligence, ce qui est encore pire peut-être qu'une intelligence fausse. Sous un certain aspect, c'est pire. Parce que le faux se définit par rapport au vrai, Tandis que l'intelligence abasourdie, hébétée, se définit par rapport à rien. Il n'y a plus rien. Et voilà pourquoi, lorsque nous parlons à nos contemporains, nous n'arrivons pas à remonter à Dieu, parce que l'intelligence a été complètement hébétée. Donc, cette faculté de l'intelligence, qui a des vertus intellectuelles. Et dans les vertus intellectuelles, je vous en ai peu parlé des vertus intellectuelles. Mais maintenant, c'est le moment de vous en parler. Ces vertus intellectuelles nous font lire dans la pensée de Dieu. Déjà, cela est extraordinaire parce que c'est un début du ciel. Surtout lorsque la vertu intellectuelle est élevée par la foi. Nous lisons dans le cœur de Dieu, c'est-à-dire dans la Sainte Trinité. Par la foi, qui m'a vu a vu mon Père, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans leurs rapports intimes à l'intérieur de la Sainte Trinité. Et c'est évidemment pour cela que le monde moderne veut détruire la vérité. Parce que s'il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de foi. Et qu'il détruit l'intelligence, parce que s'il n'y a plus d'intelligence, il n'y a plus de vérité, donc plus de foi. Mais tant que nous sommes sur terre, cette sagesse de Dieu ne fait pas de nous seulement des contemplatifs, elle fait de nous des actifs, c'est-à-dire que nous concourons avec la sagesse de Dieu dans le gouvernement du monde. Et nous devons appliquer au monde et à ce qui nous touche cette sagesse de Dieu. Que ce soit l'éducation des enfants, la vie de famille, la vie professionnelle, la vie sociale, politique, que sais-je encore, et même l'art. Parce que l'art est une vertu intellectuelle. Tout cela est une application de la sagesse de Dieu à la vie. Et s'il n'y a pas cette application, la vie est folle, comme je vous le disais. Les vertus intellectuelles sont la science, l'art, la prudence. La science qui nous fait pénétrer la sagesse de Dieu, et l'art et la prudence qui nous la font appliquer. La prudence qui nous la fait appliquer à la vie, et l'art qui nous la fait appliquer aux choses matérielles, pour que les choses matérielles nous parlent de Dieu. Voyez, Fra Angelico. Bienheureux Fra Angelico, bienheureux, hein? Il a même été canonisé, je ne sais pas si c'est récent ou pas. Les fresques de Fra Angelico nous parlent de Dieu. L'art moderne cherche au contraire à nous faire croire que Dieu n'est pas le maître, qu'on peut faire les choses en dehors de la sagesse de Dieu, dans une espèce de sagesse humaine qui n'est qu'une folie. Cet amour de la vérité se traduit dans une doctrine vraie. Parce que la sagesse de Dieu est structurée, elle est logique. Et quand on a compris cette sagesse de Dieu, on l'exprime par une doctrine qui est une doctrine philosophique à la base, et puis qui est une doctrine théologique quand il s'agit de la Sainte Trinité. Le drame, c'est que l'opposition à Dieu est une opposition à sa sagesse. Et qu'est-ce qui va rétablir la sagesse de Dieu? C'est la croix. Notre Seigneur Jésus-Christ par la croix. C'est pour ça que je vous fais ce sermon un peu théologique et philosophique la veille de Noël ou l'avant-veille de Noël. J'aurais pu vous faire un sermon pieux, hein, pour préparer à Noël. Mais la piété qui n'est pas fondée sur la sagesse de Dieu, c'est du vent, c'est du soufflet. Notre Seigneur vient parce que le monde est menteur. Le monde refuse la sagesse de Dieu. Et parce que le monde refuse la sagesse de Dieu, le monde est menteur. Le péché est d'abord un mensonge. Et plus le péché avance, plus le monde ment, c'est-à-dire plus il triche avec Dieu. Jusqu'au point de vouloir faire des choses fausses comme si elles étaient vraies. Des fausses familles, des fausses natures. Pas seulement des fausses brebis manipulées génétiquement, mais des fausses natures, même des fausses natures humaines, avec leur prétendue intelligence artificielle. Comme si l'intelligence artificielle était une intelligence, puisqu'elle ne peut pas lire dans la sagesse de Dieu, c'est pas une intelligence. Il faut lire dans la sagesse de Dieu pour être une intelligence. Il ne peut pas y avoir d'intelligence artificielle, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a ? On a un matérialisme, c'est tout. Et notre Seigneur vient montrer la fausseté et la preuve que nous sommes nous-mêmes très atteints par le mensonge du monde, c'est que nous sommes surpris par la vie chrétienne que notre Seigneur vient nous apporter. Nous la trouvons extraordinaire, sortant de l'ordinaire, alors que c'est l'inverse, c'est elle qui est dans l'ordre, elle est ordinaire, ordinaire ça veut dire dans l'ordre, extraordinaire ça veut dire en dehors de l'ordre. La vie chrétienne, la vie de la crèche, de la grotte, l'incarnation, la pauvreté à la crèche, c'est dans l'ordre. Notre Seigneur n'a pas exagéré. La preuve qu'il n'a pas exagéré, c'est que sa vie a été parfaite. Elle s'est déroulée comme une vie parfaitement conforme au plan de Dieu. Hérode n'a pas pu l'empêcher. Les obstacles n'ont pas pu l'empêcher. Et la croix nous paraît déraisonnable, la folie de la croix. Mais saint Paul ose dire que la folie de la croix est sagesse aux yeux de Dieu. Et il n'y a même que cette sagesse dans le monde. Parce que s'il n'y avait pas eu la folie du péché, il n'y aurait pas eu besoin de la folie de la croix. Mais à cause de la folie du péché, il faut la folie, je mets des guillemets, vous l'avez bien compris, il faut la folie de la croix pour rétablir la sagesse de Dieu. Et alors cet amour de la vérité, que j'en arrive à la vertu de vérité, cet amour de la vérité doit se transmettre. Et lorsque l'amour de la vérité se transmet, on enseigne la vérité, on la fait aimer, on l'enseigne en la faisant aimer. Il faut que je vous raconte à ce propos, oh je vous l'ai peut-être déjà raconté, mais ça fait rien, c'est tellement frappant. C'était au Moulin du Pin. Le supérieur de district passe me voir et il avait de gros soucis. Et nous parlons très librement et nous en arrivons à parler de la vérité. Et je lui dis, Monsieur l'abbé, non seulement je fais très attention à ne pas mentir et je sais très bien que j'ai la réputation de ne jamais avoir menti, l'abbé Pivert ne dit jamais le faux, tout le monde le sait. J'ai d'autres défauts, peut-être, ça c'est certain même. Mais je fais en plus attention de dire le vrai, de prêcher le vrai. Pas seulement de ne pas dire le faux, mais de dire le vrai. Et à ce moment-là, le supérieur de district, c'est-à-dire le supérieur de 150 prêtres à peu près, me rétorque, « Oh, monsieur l'abbé, enfin tout de même, toute vérité n'est pas bonne à dire. » Alors là, j'ai bondi. J'ai dit, enfin, écoutez, monsieur l'abbé, quand la vérité n'est pas bonne à dire, c'est que vous avez affaire à des malades. Et c'est une exception. Et le malade, on ne le laisse pas dans sa maladie. On le cherche à le guérir, justement, pour qu'il puisse, lui aussi, intelligere, lire dedans, c'est-à-dire pénétrer dans la sagesse de Dieu, et notamment dans la sagesse de la foi chrétienne, de la foi divine. Qu'est-ce que c'est que ça ? De poser comme principe « toute vérité n'est pas bonne à dire ». Alors après ça, on va trier dans les vérités ? Non, le principe, c'est que la vérité est bonne à dire parce que c'est elle qui fait vivre. Et hélas, il y a des malades qui ne sont pas capables de l'entendre ou qui ne veulent pas l'entendre. Et il va falloir mettre de l'ordre et ne pas tout révéler d'un coup de manière à les ramener à la vérité de Dieu. Comment manque-t-on à la vérité de Dieu ? On y manque tout d'abord en perdant le goût de la vérité. C'est pas seulement une question d'amour, c'est une question de goût. Le goût nous fait apprécier la chose. L'amour de la vérité, c'est cette persuasion que je vous ai dite, que tout dépend de la sagesse de Dieu, aussi bien dans la création que dans le gouvernement du monde, et que nous-mêmes qui sommes des archers et non pas des flèches, nous vivons dans cette sagesse. Tout dépend d'elle. Dès que nous la voyons, nous l'aimons, bien entendu, elle est divine. Alors celui qui commence par perdre le goût, l'amour de la vérité, qui ne regarde plus la vérité comme ayant sa source en Dieu, qui essaye de vivre sans elle. La deuxième étape, ça va être de se taire. Il va se taire sur la vérité, toute vérité n'est pas bonne à dire, et il va se taire sur les erreurs. On ne combat pas toutes les erreurs parce que les gens ne sont pas prêts à les entendre, à entendre la vérité qui combat l'erreur. Qu'il faille faire les choses dans l'ordre, oui, mais si on les fait dans l'ordre, on les fait. Tandis que celui qui se tait, il ne fait rien. Il prétend être sage, parce qu'il attend, mais ce n'est pas de la sagesse. Et quand on se tait sur la vérité, on finit par donner raison à ses ennemis, c'est-à-dire aux mensonges, c'est-à-dire aux ennemis de Dieu. Et ça, ce sont les libéraux. C'est illogique. Évidemment, ils ont anesthésié leur intelligence, donc l'illogisme ne les gêne plus. Et s'ils ont anesthésié leur intelligence, c'est parce qu'ils ont anesthésié leur amour de Dieu, eux qui étaient capables de pénétrer dans la splendeur de Dieu. Ils s'en sont détournés pour le sensible d'ici-bas. Et quand on donne raison à ses ennemis, aux ennemis de Dieu, alors très vite on les rejoint. Et quand on les a rejoints, mais il faut se justifier d'avoir trahi. Et c'est alors qu'on devient le pire ennemi de la vérité. Le pire ennemi de ceux qui défendent la vérité, qui la propagent, qui la prêchent. Est-ce que ce que nous voyons dans la situation actuelle de l'Église, nos pires ennemis sont les catholiques qui ont abandonné l'amour de la vérité. Nos pires ennemis ne sont pas ceux qui sont dans l'erreur. Qu'ils soient de bonne ou de mauvaise foi, ils sont dans l'erreur. Nos pires ennemis sont ceux qui ont trahi. Parce qu'il faut qu'ils se justifient. Alors vous voyez, mes bien chers frères, à quel point c'est important. Vous voyez que la restauration de l'ordre passe d'abord par la restauration de la sagesse de Dieu. Mais cette restauration de la sagesse de Dieu passe par la sagesse de la croix qui est une folie aux yeux du monde. C'est cela que vous allez demander à notre Seigneur à la crèche. C'est cela qu'il veut vous donner et c'est cela que vous devez lui demander. Et vous allez demander à la Sainte Vierge qu'elle vous éloigne de ce monde et qu'elle vous donne un grand amour de son Fils, amour qui vous permettra de pénétrer la splendeur de l'incarnation et par là de monter jusqu'à la splendeur de la Sainte Trinité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.